ce sont les deux.
Près de Bethléem, il y avait un enfant qui gardait les brebis tous les jours dans les champs. Un jour son père lui dit, David va voir tes frères, prendre de leurs nouvelles car ils sont à la guerre. Et David est parti comme son père lui avait dit, en chantant sur le chemin des louanges à l'Éternel. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, aussitôt il courut pour aller voir ses frères. Il y avait là un homme qui lançait un défi au peuple d'Israël ainsi qu'à l'Éternel. Et David lui a dit, je te tuerai aujourd'hui car je marche contre toi.
Thank you.
le temps qui passe est oublié et révolu. Même si notre saison se pose sur nous comme une échéance, gardons la foi. Gardons l'espoir. Car n'est pas vaine, oh Jésus, la souffrance.
Quand pas vous et Olivier aussi, voilà la guitare, tout ça. Ce matin, je voudrais qu'on fasse une lecture dans le Proverbe chapitre 4, s'il vous plaît. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je vais vous asseoir. Vendredi, j'ai commencé à vous parler de deux formes de la foi. Une forme simple et une forme compliquée. Non, pas compliquée, mais supérieure. Je vous ai brièvement parlé de la foi simple. Celle qui nous a fait venir à Jésus-Christ, reconnaître Jésus-Christ. Quand nous avons entendu sa voix, nous l'avons reconnue. Et ce matin, je vais vous parler de la foi, de sa forme supérieure. Celle qui nous fait passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Alors, c'est le stade que la Bible appelle, et ce n'est pas très à la mode, le renoncement. Ou le stade de la consécration. Frères et sœurs, on a tous une multitude d'intérêts différents, ce qui fait que nous sommes différents. Et chacun de ces intérêts a sa place dans notre vie, dans ce que la Bible appelle notre cœur. Mais au centre, il y a toujours un intérêt majeur, une passion maîtresse, quelque chose qui est en number one. Pour illustrer ça, je dirais que notre cœur, c'est un peu comme une roue, si vous voulez. Il y a plusieurs rayons, mais il n'y a qu'un moyeu. C'est ça qu'on dit, hein, c'est un moyeu. J'hésitais entre moyeu et essieu, mais essieu, je crois que c'est la barre qui relie les deux roues. Hein. C'est le moyeu, hein. Le centre de la roue. La Bible, elle nous parle sans cesse de notre cœur. Et c'est de cela dont elle parle, c'est-à-dire c'est du moyeu, du centre. En photographie, on parle de focaliser, focal, le centre, le point focal de notre personnalité. Quand je fais quelque chose de tout mon cœur, j'y mets quoi en fait? J'y mets quoi? J'y mets toute ma volonté, j'y mets tout mon enthousiasme, j'y mets toute mon affection, j'y mets toute mon imagination. Et comme on l'a lu dans la Bible, il nous est dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de notre cœur, c'est de lui que viennent les sources de la vie. On va faire une doctrine avec ça. Les sources de la vie sont en nous, dans notre cœur, ou est-ce que c'est en Jésus? Alors, hein, qu'est-ce qui est au centre de notre cœur? Un autre texte dit, là où est ton cœur, c'est là que tu es. Et notre cœur est toujours centré sur quelque chose. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé le vrai propriétaire de notre cœur, eh bien, on a voltigé d'un truc à un autre. Et moi, j'ai voltigé comme ça pendant 18 ans jusqu'à ce que je trouve le propriétaire de mon cœur, Jésus-Christ. Et j'ai voltigé d'un intérêt passager à un autre intérêt passager. Parfois, je me suis accroché fermement à quelque chose, puis ensuite, j'ai laissé tomber, je me suis accroché solidement à autre chose. C'était toujours Je mettais tout mon cœur dans une chose, dans un objet, dans une personne. Vous savez, notre cœur, il est retenu par ce qu'il tient lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez Tyler Durden qui disait « Ce que tu possèdes te possède. Ce que tu possèdes te possède. » C'est ça ton idole, c'est ça ton maître. Alors voilà la véritable nature de ce que la Bible appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, hein. C'est ce qui a conquis ton cœur. C'est ce qui veut être le centre de tes affections dans ton cœur. Mais voilà, ton cœur, par création, ton cœur, par rédemption, il n'appartient qu'à Dieu. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. De toute façon, tu as un maître. Et tu ne peux pas vivre sans avoir un maître. On est comme ça. Un maître d'une espèce ou un maître d'une autre, mais de toute façon, on a un maître. Après notre conversion, il y a souvent quelque chose qui reste comme une attache abusive dans notre vie. Ça peut être quelque chose de très innocent, ça peut être quelque chose même d'utile, ça peut être même quelque chose de profitable, voire même d'élevé, mais ça peut devenir une idole destructrice de vie si elle occupe le centre du centre. Rappelez-vous, notre cœur c'est comme une roue, il y a des rayons, mais il y a un centre. Ça peut être une personne, ça peut être un être aimé. Et là encore, on entend la voix de Jésus qui nous dit, si tu ne hais pas, tu ne peux pas être mon disciple. Aïe. Ça peut être le travail, ça peut être notre foyer, ça peut être la poursuite de la connaissance. Moi, je me suis demandé à un moment si ce n'était pas devenu mon idole, la poursuite de la connaissance. J'ai remis ça devant Dieu. Ça peut être la politique, c'est pas le foot pour moi. Hein. C'est... ça peut être le foot, ça peut être le sport, ça peut même être l'humanitaire. C'est fou, hein. Alors, Dieu nous donne des bonnes choses, écoutez bien, pour que nous en jouissions, mais pas pour que nous les adorions. Alors, il arrive qu'on entende que Jésus nous dise un jour... M'aimes-tu plus que... Vous vous rappelez quand Jésus a dit ça? M'aimes-tu plus que... Tous les disciples de Jésus ont entendu ça un jour ou l'autre dans leur vie. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, eh bien je dis que le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur du tout. Vous voyez, ce qui tient le cœur de l'homme... C'est ce qui absorbe son énergie. C'est ça. C'est autour du centre que l'homme pense. Il va s'enthousiasmer au sujet de ça. Il va rêver. Il va faire des plans. Il va agir. Alors on entend de nouveau la voix de Jésus qui dit « Garde ton cœur plus qu'autre chose. » Alors Dieu nous a créés pour que nous aimions. Il veut que nous soyons comme lui, que nous aimions, mais lui, il aime d'une façon universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que nous aimions toutes les personnes, il veut que nous aimions toutes choses, il veut que nous puissions servir les choses, servir les personnes. Parce que nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Héritiers de quoi? Héritiers de toutes choses. Je vous ai lu l'autre jour que tout vous appartient. La vie, la mort, le monde, le passé, le présent, tout vous appartient, tout est à vous. On est tellement important que même la Bible nous dit qu'un jour on jugera les anges. Et c'est justement parce que c'est si important que l'homme, le disciple de Jésus, la femme, la disciple de Jésus, n'a pas le droit d'avoir un esprit étriqué. Il doit être fermement attaché à Jésus-Christ et se détacher de toute affection exagérée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les autres choses. On doit se détacher de tout ce qui a tendance à prendre la place centrale dans notre cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu ne prend pas plaisir à nous limiter. Je me rappelle, quand je me suis converti, on m'a fait jeter ma télé, mes bouquins, mes disques. Le cinéma, c'était interdit. S'habiller à la mode, c'était interdit. Les cheveux longs, à l'époque, c'était très important, les cheveux longs pour un garçon. Si on n'avait pas les cheveux longs, on passait pour un plouc. Ben, c'était interdit. Tout était interdit. Dieu ne prend pas plaisir à nous interdire tous ces trucs-là. Pas du tout. Il ne veut pas nous refuser ceci ou cela. Pas du tout. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon, c'est que nous ayons la plénitude de Dieu. Parce que, ayant Dieu au centre de notre vie, nous avons tout ce qui est à lui. Quand Jésus est le centre de la vie d'un disciple, le disciple est à Dieu, et étant à Dieu, il possède toute chose, sans être possédé par elle. C'est ça le truc, ne pas être possédé par quelque chose. C'est Dieu qui doit être le centre de notre vie. Vous voyez, comme je vous disais vendredi soir, le péché, il se situe plus profondément que les péchés. C'est là où on a un peu une difficulté avec ça. Les péchés, c'est que la forme extérieure du péché. Le péché, c'est la racine, et les péchés, c'est le fruit, si vous voulez. Et le péché, il a une habitation. Le péché, il habite quelque part. C'est pas au Vatican. C'est dans notre ego. Paul dit, le péché qui demeure en moi. Et le péché se révèle avec beaucoup de nuances, avec des tas de subtilités, dans toutes sortes de manifestations de notre moi. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que le tranchant, l'épée tranchante de la parole de Dieu qui est capable de séparer l'âme et l'esprit, qui peut juger les pensées de notre cœur, de notre centre, qui peut juger. C'est pourquoi il est bon de bien connaître la parole de Dieu, pas seulement celle qui est écrite, mais celle qui veut nous dire, lui. Directement, au travers de ses serviteurs. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour faire sa demeure en lui. Dieu voulait demeurer en l'homme, dans la femme. L'homme devait être le saint des saints. L'homme et la femme devaient être le lieu très saint. Le cœur de l'homme, ça devait être l'habitation du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui pouvait converser avec l'homme d'esprit à esprit. Mais l'homme a rejeté l'autorité du Père, l'autorité du Créateur, et nous sommes nous-mêmes élus rois de notre propre personnalité, indépendants, mais en fait usurpateurs. Parce que notre cœur, de par sa création et de par la rédemption, n'appartient qu'à Dieu, ne nous appartient pas à nous. Ni à personne. Et aujourd'hui, on en est arrivé au terme, à la fin du règne de l'homme sur la terre, et c'est tant mieux. Hein, c'était six millénaires d'horreur, d'égoïsme, d'orgueil, de sensualité, de haine, de malice, de méchanceté, de guerre, de maladie, de mort. Basta, terminé, circulez, il n'y a rien à voir, débarrassez-nous de tout ça, on n'en veut plus. Parce que derrière notre fameux ego se cache, se dissimule l'esprit du mal, le péché, dont Paul parle. Il dit, Paul, qu'il est à l'œuvre, le péché, cet esprit du mal, dans les fils de la rébellion. Alors voilà où nous en sommes. Toutes nos merveilleuses facultés, créées pour être utilisées par Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le bien de tout ce qui nous entoure dans cette création, tout ça, c'est réduit en esclavage, vicié, souillé, par la domination de ce moi, parce que nous avons décidé de nous asseoir sur le trône. Mais bon, il faut dire aussi que ce moi, il est encore capable de bonté. Même l'homme, la femme la plus méchante est capable de bonté. Parce que dans l'homme, il y a encore quelque chose de la création de Dieu. Même dans la race du serpent, il y a ce mélange. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus qui dit « Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Mais si ça c'est vrai, le contraire aussi est vrai. C'est-à-dire que si ce moi rebelle peut agir avec bonté, peut être joyeux, peut être triste, il peut être habile à faire le bien, par contre, nous aussi, qui sommes nés de nouveau, eh bien, ce vieux rebelle, ces membres qui sont sur la terre, cette chair, ce vieux moi, est aussi capable de faire du mal, d'être triste, d'embêter le monde autour de lui, d'être habile à faire de la peine aux autres. C'est comme ça, même chez un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu, notre bon berger, nous apprend qu'il nous conduit de progrès en progrès. Vous rappelez, je vous disais, il vous conduit au port, mais c'est de progrès en progrès. C'est petit à petit. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous ne vous découragiez pas. Bien sûr que vous avez la foi. Bien sûr que vous avez la foi. Mais il faut savoir qu'il vous conduit à quelque chose. Il vous conduit dans une espèce de désert pour vous faire comprendre, pour vous révéler une chose au sujet de vous, le dévoilement de votre moi. Ça, c'est obligatoire. Avant d'entrer dans la terre promise, il faut qu'ait lieu ce dévoilement du moi. Vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, mais vous devez maintenir dans la mort les membres qui sont encore sur la terre. On a encore ce combat et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. On fait des erreurs, après on paye, mais il ne faut pas se décourager. Il nous conduit, Dieu, bien sûr. Moi je me rappelle, Raphaël il avait dit, donnez votre vie à Jésus, vous aurez la paix, la joie et le bonheur. Bon, ça c'est ce qu'on dit aux inconvertis pour les emmener à Dieu. Mais la paix, la joie et le bonheur, en fait Dieu nous conduit premièrement dans des profondeurs, jusqu'aux racines du péché, c'est-à-dire ce principe égoïste qui est tapis tout au fond de nous. C'est là qu'il nous conduit. Bien sûr qu'on a la joie de notre salut, on sait qu'on est sauvé, c'est formidable. Mais il y a quand même au fond de nous, il veut qu'on regarde ça en face. Il veut qu'on regarde ça en face. Et qu'on en arrive à dire, hé péché, tu es présomptueux, hé péché. Paul dit, c'est pas moi qui fais ça, c'est le péché qui est en moi qui fait ça. Tu prétends être la source suffisante de la sagesse, hé péché. Tu prétends être la source suffisante de mes actions, hé, je te démasque au nom de Jésus dans toute ta fausseté. Mais ça ne va pas être simplement une phrase, il faut oser le regarder en face, c'est pas beau. C'est pas beau. Hé, péché, je rejette cette tendance à me sauver par moi-même. Combien de personnes se disent, oh, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai passé par les eaux du baptême, j'ai été rempli du Saint-Esprit, et puis maintenant, regarde où j'en suis, c'est pas possible. Et alors, ils font des efforts pour se sauver eux-mêmes. Non, ce moi, il doit pas être sauvé, il doit être perdu, il doit mourir, il doit disparaître, on doit le condamner au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que lui puisse vivre en nous, et non pas ce moi dégénéré, ce péché qui vit en nous. Vous voyez, Dieu permet qu'on en arrive à cet état où on se sent humilié. Humilié. Parce que c'est seulement quand on est humble, c'est seulement quand on est humble qu'on est assez mûr pour accepter de faire le saut de la foi supérieure. Pas avant. Avant, c'est une théorie. C'est quand on est dans la souffrance. C'est quand on dit, bon ben voilà, c'est un échec. Je suis un échec. Ben, c'est quand on est humble comme ça, c'est quand on est dans cet état-là. Parce qu'on a vu le péché qui est tapis au centre de nous-mêmes. Quand on a vu ça, qu'on est à même d'accueillir le véritable Seigneur et de lui dire, mon Dieu, voilà, je te donne la première place sur le trône dans mon cœur. Je te couronne Seigneur de ma vie. Maintenant, je veux ce moi, non, non. Que ta volonté soit faite, pas la mienne, non. Je veux plus, je baisse les armes, je me soumets à toi. Je vais peut-être agir moins, mais je vais agir selon tes ordres, selon ton commandement. Jésus, il a eu beaucoup de mal avec tous les hommes de foi, avec toutes les femmes de foi, pour faire comprendre cette grande vérité. Il s'est donné beaucoup de mal, je dirais même, pour faire comprendre cette vérité à ceux qui veulent le suivre. Celui qui veut le suivre, il faut absolument qu'il apprenne ça. C'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie lumineuse, vraie, authentique. Dieu a mis 14 ans pour apprendre ça à Abraham. 14 ans. 14 ans. Abraham, il a fait le premier pas de foi simple, le jour où il a fait son acte d'obéissance quand Dieu lui a dit de partir dans un endroit, il ne savait même pas où. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Quand on s'est converti, on ne savait pas où ça allait nous mener, hein. On a tout quitté, on a tout vendu, on est parti comme ça. Seigneur Jésus, je crois, tu es mon berger, tu me conduis, c'est formidable. On ne savait pas du tout où ça allait nous amener, toute cette histoire. 14 ans. Abraham, il fuit en Égypte, première erreur. Abraham, il fait un gosse à sa servante, deuxième erreur. 14 ans. Sa fuite en Égypte, c'était pour sauver sa peau. Le gosse, c'était parce qu'il a préféré écouter sa femme que Dieu. Deux immenses détours, 14 ans. Et pendant 14 ans, il en a vu des histoires. Et finalement, il a vu quoi ? Son moi. Son moi lui a été révélé. Il s'en est rendu compte. Ce vieil Abraham, ce vieux juif rusé, ce vieux juif rusé et déchu, qui était caché là au centre, grimaçant, rigolant. Il a vu ça dans son corps, mais il a vu ça aussi dans son esprit. Il l'a vu, 14 ans, et finalement, il a été brisé. 14 ans. Je souhaite que ça ne dure pas aussi longtemps pour vous. C'est là que Dieu a donné sa parole de délivrance. C'est là que Dieu a donné la parole de délivrance. Marche devant ma face et sois intègre. Vous trouvez ça dans Genèse 17, 1. Alors Abraham a commencé à se mettre à marcher selon Dieu et non plus selon sa chair. Marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Au début, on ne sait même pas que c'est la différence entre l'esprit et la chair. On croit que, ah, c'est l'amour, donc c'est l'esprit. On fait tous cette bêtise. Plus ou moins, mais on la fait tous. Alors Abraham, il a commencé à se mettre à marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Il a fait le grand saut de la foi supérieure avec une puissante action de l'esprit qui l'accompagnait. Et c'est ce qui a fait de lui le père de la foi supérieure. Il lui a fallu 14 ans. Alors nous, on est partis comme Abraham, ne sachant pas où on allait. C'était lors de notre conversion. Et puis on était contents, hein? Moi, je me rappelle, j'étais très content quand j'étais baptisé, tout ça, c'était formidable. Et puis en plus, le Seigneur me donnait des prophéties. Tu vas, je vais faire de grandes choses avec toi, et ceci et cela, c'est fantastique. Alors on se réjouit, on s'imagine des choses extraordinaires, et voilà. Et puis il m'est arrivé des choses extraordinaires. Bien sûr, ma vie, je ne voudrais pas la changer avec la vie de quelqu'un d'autre, mais cette rencontre avec le moi, ça n'a pas été rigolo, hein. C'était la mise en action des quatre clés qui font couvrir la porte. La conversion, c'est la mise en action des quatre clés qui ouvrent la porte. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, recevez le Saint-Esprit, ventoux et suis-moi. C'est les quatre clés qui ouvrent la porte, c'est simplement la porte qui s'ouvre. Maintenant, il faut se mettre à marcher, alors on fait un pas. Abraham, il a fait un pas, il a quand même quitté Ur en Chaldée, il a fait un pas, un deuxième, un troisième, puis problème, il fiche le camp en Égypte. Et vous, et comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Et chacun d'entre nous, on a fait au travers de cette porte un pas, deux pas, et puis... Où est-ce que ça a été le truc qui a fait que vous êtes parti en Égypte ou que vous avez dévié, quelque chose qui s'est passé? Alors, on est comme Abraham sur ce chemin. Cela doit-il prendre absolument 14 ans? Je ne vous le souhaite pas. Mais si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore fui en Égypte, ne fuyez pas si vous êtes jeune, hein, parce qu'en fait, quand on est vieux, on a tous fait ça au moins une fois. Mais si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore fui en Égypte, ne fuyez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en Égypte. Hein. C'est très joli l'Égypte. J'ai été visité l'Égypte, mais je parle au spirituel. Je veux dire, la fuite en Égypte, ça veut dire chercher ce qui est dans le monde, le secours du monde, l'aide du monde, plutôt que l'aide de Dieu. Et puis, ne substituez pas le miracle de la naissance d'Isaac par la naissance d'Ismaël. Parce qu'Abraham a beau être le père de la foi supérieure, les conséquences, elles sont toujours encore en train d'être payées avec cette histoire de substituer la naissance d'Isaac avec la naissance d'Ismaël. C'est grave. Deux erreurs, 14 ans, deux fois 7 ans. Deux erreurs, 7 ans, une erreur, 7 ans, l'autre erreur, 7 ans. Deux fois 7 ans, il y a des cycles. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des cycles? Faites le calcul, vous allez être étonné. Il y a des cycles, il y a des cycles. Gardez votre cœur par-dessus tout, gardez votre centre par-dessus tout, gardez votre centre qui est le trône de Dieu par-dessus tout. Il faut que ce soit Dieu qui soit là, parce que c'est du centre, c'est-à-dire du trône de Dieu, de là où est Dieu, que viennent les sources de la vie, de nulle part ailleurs. Pas de votre bonne femme qui vous dit oui, mais tu sais, peut-être la prophétie de Dieu, ça voulait dire que il faut que tu ailles avec ma servante. Vous savez, arranger la parole de Dieu. Ou c'est pas bon, c'est difficile, mais il y a l'Égypte à côté, on peut peut-être faire une petite parenthèse comme ça pour respirer un peu. Non. Comptez sur Dieu. Gardez par-dessus tout votre cœur, là où est Dieu, votre centre. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, aide-nous. Aide-nous. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Parce que c'est tellement subtil, cette petite voix qui est en nous et qui nous dit, oui, mais tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça, mais ce n'est pas si grave, ou ceci, ou cela. Oh Seigneur Jésus, permets que nous puissions écouter ta parole telle que tu l'as dite. Nous pouvons la comprendre. Ce que tu dis, c'est suffisamment clair. Aide chacun d'entre nous à être sérieux avec ce qu'il comprend de la parole de Dieu que nous avons dans nos mains, dans nos cœurs, afin que nous ne péchions pas contre toi et que nous évitions de faire ces grands détours et de perdre tout ce temps. Merci Seigneur de permettre que nous puissions rapidement être mis en face de notre moi, de se rendre compte à combien c'est hideux et combien il est bon de regarder ta face et de faire confiance à ton esprit. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Veuille pardonner ceux qui ont été en Égypte. Veuille pardonner ceux qui ont écouté l'homme ou la femme plutôt que d'écouter toi avec tes commandements, avec tes promesses. Veuille pardonner ce matin. Étends ta main que chacun maintenant reçoive ce pardon. Prenez-le simplement. Pas avec une émotion, mais avec un cœur contrit, un cœur brisé en disant, mon Dieu, j'ai besoin de ce pardon et maintenant je vais tout à l'heure me lever de cette chaise, sortir d'ici. Mais je crois que j'ai quitté l'Égypte. Je crois que j'ai renvoyé tout ce qui n'est pas de Isaac. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen.